Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Violette Voldoir, Mossy Tiffette de Roquigny, Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Dernier volet donc de notre série consacrée au monde souterrain, après avoir parlé lundi des tunnels en situation de conflit, mardi de l'urbanisme souterrain, hier de l'extraction minière, on va parler ce matin de ces communautés aux marges de nos sociétés qui parfois se recomposent dans des espaces souterrains, quitter la société de ses semblables pour se réfugier dans les profondeurs de la terre. C'est ce qu'avaient fait certains hommes, certaines femmes qui ont investi les souterrains du Bronx ou de Manhattan du côté de New York. De New York à Copiapó, les sociétés souterraines, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je suis tétanisée, complètement, de voir et même d'imaginer qu'on peut vivre aussi profond en dessous.
Je veux un peu d'intimité et de respect, comme tout le monde. Je paye mon loyer ici avec du sang et de la sueur. Je n'ai déjà plus de larmes, donc c'est pas bon.
Il y a des endroits à New York City qui sont bien pires que là où nous sommes. Et les gens y survivent.
J'essaie de revenir à une vie civilisée. Je vis ici, mais ça ne veut pas dire que je suis un homme des cavernes. J'adore le noir. L'autre jour, j'ai dit à Dieu que la chose que je crains le plus, c'est pas lui, c'est pas le diable, c'est moi.
Extrait de ce documentaire dans les entrailles de New York, dans lequel on croise ce peuple souterrain, ce peuple taupe, régulièrement chassé et délogé par les autorités de la ville. Pour ces gens, vivre sous terre, c'est vivre sans lumière, mais c'est surtout trouver un refuge, un dernier abri quand la surface les a définitivement rejetés. Alors que se construit-il dans ces marges? Comment s'y organise la vie? Peut-on parler de l'émergence d'une autre communauté avec ses propres codes, ses propres règles, ses propres représentations? Et d'ailleurs, quelle image se fait-on précisément depuis la surface de ces abîmes habités? Si les New-Yorkais ne voient pas ou ne veulent pas voir ces femmes et ces hommes invisibles, ils sont pourtant présents dans leur imaginaire, notamment à travers le cinéma populaire, les blockbusters américains. La ville à l'envers représentée dans le cinéma populaire, des grosses productions américaines, n'est pas le miroir de la surface. Pour Bastien Darret, avec qui on échangera tout à l'heure, c'est le lieu de la solitude, du refuge, de l'altérité, mais c'est aussi un lieu qui questionne l'identité dans une société de plus en plus peuplée d'objets technologiques qui permettent d'être vus partout et tout le temps grâce à lui. On peut encore se représenter un lieu où l'obscurité et l'intimité y est possible. Mais le souterrain, c'est aussi le lieu du risque, celui qui peut arracher la vie, une peur que les mineurs connaissent bien. Les collectifs de travailleurs se constituent en groupes solidaires, des mini-sociétés, parfois un peu en marge, avec leurs propres codes, leurs règles, leurs rituels. À Potosí, en Bolivie, ils font des offrandes aux divinités à qui appartient leur mine, des divinités qui peuvent se fâcher, décider de les retenir au fond. Ce qui est arrivé à d'autres mineurs d'Amérique latine, à Copiapó, au Chili, où en 2010, 33 mineurs étaient restés piégés pendant 69 jours sous la surface. On en parlera tout à l'heure avec Nicolas Richard. Mais d'abord, pour évoquer ces questions, ces sociétés souterraines, on a invité ce matin Chantal Lasbats. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Chantal Lasbats. Vous êtes réalisatrice et c'est vous qui avez fait ce documentaire dont on vient d'entendre quelques extraits. Vous vivez entre Paris et New York et vous avez tourné ce documentaire en 2008. Il a été diffusé l'année suivante. Pour beaucoup, c'est vrai qu'on découvrait pour la première fois l'existence de cette population de l'ombre réfugiée dans ces tunnels, dans ces voies de chemin de fer, dans ces égouts, dans ces sous-sols de New York. Comment est-ce que vous aviez découvert leur existence?
D'une manière complètement imprévisible. J'étais à New York, dans une exposition, et j'ai rencontré par un ami une femme qui s'occupait de Business Charity, et on a parlé, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait plus précisément, et elle organisait des soupes populaires pour des gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un repas, et elle m'a parlé de temps en temps, en me disant qu'il y avait des gens qui vivaient dans les souterrains de New York, qui remontaient en surface pour venir chercher un peu de soupe, des légumes, quelque chose. J'étais complètement étonnée, je lui dis mais ça existe? Elle m'a dit mais oui, ça existe, il y en a un peu partout sous New York, ils sont répartis dans des villages. Et j'ai dit mais comment faire pour les rencontrer? Elle m'a donné quelques pistes, on s'est revus, j'ai travaillé là-dessus et j'ai lu après, peu après, un livre qu'elle m'avait conseillé qui s'appelle Les Saisons de la nuit de Colum McCain, qui est absolument une histoire extraordinaire.
Qui était journaliste, un écrivain irlandais installé à New York. Oui. Et dans ce livre justement, il croise deux destins, celui d'un sans-abri de Riverside Park qui vit dans un tunnel, Trifforgue, et puis celui d'un homme qui a vécu au début du XXe siècle, Nathan Walker, qui est en fait un terrassier qui a construit justement ce tunnel il y a très longtemps, ce tunnel dans lequel vit Trifforgue, et qui est en fait son grand-père.
Oui.
À New York, ces gens, on les surnomme parfois les hommes taupes, on en a entendu parler sans jamais vraiment les avoir rencontrés, et en fait pour beaucoup c'est peut-être une rumeur, quasiment un mythe en réalité.
Oui, bah, les gens, moi j'ai dit à des amis, mais tu sais, où, sous tes pieds là, il y a des gens qui vivent, il y a des villages, et les personnes croyaient. Enfin, ça reste une espèce de légende urbaine qui fait un peu peur. À l'époque de Giuliani, qui était maire de New York, il a envoyé des flics nettoyer les tunnels, mais ils sont pas descendus très profond, ils sont descendus jusqu'au 2e, 3e, parce que ce sont au départ, des vétérans du Vietnam qui ont commencé à peupler ces tunnels.
Donc au début des années 70.
Oui.
Comment se fait-il justement que des vétérans de la guerre du Vietnam se soient retrouvés comme ça, isolés, marginalisés, au point de se réfugier dans des tunnels? Pourquoi est-ce qu'ils représentaient à ce point une charge pour la société américaine, une charge pour la ville de New York?
Parce que beaucoup sont venus complètement fous de la guerre du Vietnam, complètement détruits. Et ils n'avaient pas de pension alimentaire, ils n'avaient pas d'argent, ils faisaient peur. Donc, comme ils n'avaient rien, quand ils sont rentrés de la guerre, ceux qui sont rentrés à New York ont commencé à investir des tunnels, parce qu'il y a vraiment, c'est comme un grand fromage au New York, hein, avec plein plat, il y a 12 niveaux, et là, ils étaient un peu en paix, donc ils ont commencé à s'installer et à former des villages. Et puis ça, la population a gonflé. On dit, je sais pas, moi, il y en avait beaucoup moins, qu'il y a eu jusqu'à 5000 personnes. Et que notamment sous Grand Central, il y avait même une école avec un professeur qui donnait des... Il y avait des familles entières.
On va revenir évidemment sur cette période Giuliani. Est-ce que ça a changé? Oui. Quel effet ça a eu évidemment pour ces populations? Mais d'abord, vous disiez il y avait des parts des vétérans de la guerre du Vietnam. Il n'y avait pas seulement ça. Depuis, beaucoup d'autres se sont installés ici. On croise dans votre documentaire des femmes. On y apprend que parfois, il y a eu aussi des familles, donc des enfants qui étaient là.
Oui, ben c'est ce que je vous disais, l'école, il y avait des enfants. Mais ça, maintenant, il n'y en a plus.
Comment est-ce que ces gens faisaient pour survivre, Chantal Lapsat? Alors, pour se nourrir, pour...
C'est très simple. Il y en a qui sont complètement au fond, qui ne remontent pas. Et puis, c'est par niveau. Et ceux qui sont dans les niveaux supérieurs, certains travaillent la nuit. Parce que le jour, ils ont très peur, ils restent dessous. Et la nuit, il y a un business qui rapporte pas mal d'argent, c'est qu'ils ramassent les canettes métalliques qu'ils revendent. C'est la mafia russe qui tient ça. Il y a 3 ou 4 points de vente dans New York et ils apportent leurs sacs de canettes.
Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement en marge de la société consumériste. Ils ont par exemple un rapport à l'argent.
Non, ce n'est pas un rapport à l'argent, c'est pour s'acheter de la nourriture.
Bien sûr. Certains touchent des allocations?
Oui. Certains maintenant, il y a d'autres vétérans d'autres guerres qui touchent les allocations, ou il y en a qui sont psychiquement malades, atteints, qui touchent les allocations. Et là, ils partagent. Il y a vraiment une grande solidarité par village sous terre.
On va revenir sur cette solidarité, mais il y a aussi des gens de la surface qui leur viennent en aide. On en croise quelques-uns dans votre documentaire.
Oui, il y en a quelques-uns. Il y a quelques, justement, groupes de charity business. Dans le Bronx, il y a une religieuse complètement extraordinaire qui fait des collectes pour après distribuer sous terre.
Sœur Laurie, je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors, 1994, Rudolph Giuliani arrive à la mairie de New York. C'est un partisan de la tolérance zéro. Il met en place une politique extrêmement rude à l'égard des délinquants, des pauvres, de toutes les personnes qui finalement vivent dans la marge de cette société new-yorkaise.
I fight hard for the city.
Je me bats comme un beau diable pour cette ville, même si je n'obtiens pas toujours ce que je veux. Mais je pense qu'en tapant du poing sur la table, j'ai pu accomplir certaines choses que les maires précédents ont été incapables de faire. Si j'étais resté politiquement correct, je n'aurais rien pu faire. Le taux de criminalité est en baisse, en particulier dans les quartiers où le pourcentage y est le plus élevé. C'est là que nous déployons la police et que nous tapons le plus fort. Et cette stratégie aboutit à moins de meurtres et moins de fusillades dans ces quartiers.
Rudolf Giuliani, donc, sur cette politique de tolérance zéro qui évoque sur le plateau de Charlie Rose sur la chaîne PBS en mai 95. Eh bien, justement, un premier bilan de son action. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour ce peuple taupe, ces gens qui vivent dans ces souterrains, lorsque Giuliani arrive?
Ben, il envoie les flics. Il envoie les policiers qui descendent en masse dans les souterrains et qui nettoient niveau par niveau. Mais ils n'ont pas nettoyé très bas. Ce qui fait que les gens qui vivaient dans les niveaux moins 2, moins 3, sont descendus de plus en plus profond. Et certains sont plus jamais remontés. Ils vivent vraiment très profond. Il y a 12 niveaux.
Quand vous dites nettoyer, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Ils chassent les gens.
Ils chassent, ils poursuivent les gens, ils envoient des milices avec des chiens, ils tirent. Il y a eu beaucoup de gens qui sont tués par les policiers. Enfin, ça a été vraiment très très dur. C'était une grosse répression.
À l'époque, cette politique de Giuliani à l'égard de ces populations en marge, de tous ces sans-abri, ces homeless comme on les appelle à New York, en gros, le plan de Giuliani, c'était de les obliger à trouver un travail sans lequel ils se retrouvaient expulsés. C'était ça la politique de Giuliani.
Oui, mais bon, c'était irréalisable. C'était des gens trop désocialisés, trop atteints, trop. Faut dire qu'il y a beaucoup de malades mentaux sous terre.
Donc. Et puis il faut dire aussi que c'est un dispositif qui avait notamment été suspendu par la Cour suprême de l'État de New York. Donc
il y a une grosse indignation.
Évidemment, à la limite, pour ces sans-abri, trouver un travail, c'était encore possible. En revanche, trouver un logement, c'est extrêmement difficile parce que à l'époque, aujourd'hui encore, mais à l'époque, c'était peut-être encore plus grave. Il y avait une crise du logement terrible à New York, terrible.
Ouais, c'était pas possible. Personne ne leur aurait même prêté une chambre pour quelque temps. Moi, j'ai essayé de recaser Brooklyn, de lui avoir une chambre. C'était pas possible. Elle pouvait pas s'habituer à être dans une chambre normale, à avoir une vie normale. Et puis pour obtenir ça, c'était impossible.
Giuliani, il avait lancé un programme de réinstallation des homeless. Où est-ce qu'il les mettait?
Je sais pas. Je sais pas ça.
Et évidemment, malgré cette politique extrêmement répressive de Giuliani, on trouve encore de ces personnes qui vivent dans ces souterrains.
Ah oui, il y en a de plus en plus, maintenant.
Encore aujourd'hui?
Ah oui.
Et encore plus depuis la crise?
Encore plus depuis
la crise. C'est ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années.
Maintenant, il doit y avoir à peu près 2000 personnes sous terre. À peu près.
C'est la peinture de Goya, appelée le 3 mai. Elle montre les forces napoléoniennes qui arrivent. Il tue les paysans en les mettant en ligne. Quand ça a été fait à l'origine, il y avait environ une douzaine de sans-abri qui vivaient ici, près de la peinture. Il y avait aussi un feu de camp. Ce feu était très important parce que les flammes illuminaient la peinture. Il faisait partie intégrante de cette peinture. En 1995, il y avait un feu de camp, ici, en bas. Il y avait des milliers de gens qui vivaient dans les tunnels. Il n'y en a plus autant maintenant, à cause des événements du 11 septembre. Il est raisonnable de penser que des terroristes qui voudraient nuire au pays examineraient toutes les infrastructures, et le métro serait certainement une de leurs premières cibles. Alors imaginez que les terroristes n'ont pas pensé au tunnel serait complètement naïf.
Nouvel extrait de votre documentaire, donc dans les entrailles de New York, Chantal Lasbats. On entend là un artiste peintre qui, dans les années 80, côtoyait, fréquentait toutes ces personnes et lui a vu les effets du 11 septembre avec ses rafles de la police new-yorkaise et d'une certaine manière, il reprend en fait le discours officiel. C'est vrai qu'après le 11 septembre 2001 et cette attaque du World Trade Center, la répression à l'égard de ces peuple de l'ombre va encore s'accentuer.
Oui.
Pour quelle raison?
Parce que justement, ils avaient peur que des terroristes s'infiltrent. Mais ils pensaient comme des gens de la surface. Dessous, c'est très organisé. Ils se connaissent tous. Ils sont répartis par village, mais ils savent. Quand un étranger arrive, ça se dit. Donc, que des terroristes puissent s'infiltrer dans les niveaux assez haut, directement sous les trains parce qu'il y a Amtrak qui passe ou sous le métro, ça c'est possible. Mais qu'ils descendent plus pour poser des bombes, à mon avis, ils seraient quand même... ça serait peut-être pas très rassurant pour eux parce qu'il y aurait des...
En tout cas, aucune preuve n'a été faite qu'effectivement réseaux terroristes se sont appuyés sur ces lieux, sur ces espaces et sur les habitants qu'on y trouve.
Non, il y a beaucoup de fantasmes liés à ça.
Et comment est-ce qu'à l'époque, l'opinion new-yorkaise avait réagi à cette campagne de nettoyage, je mets des guillemets?
Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été extrêmement offusqués et qui ont trouvé ça épouvantable. Mais il faut dire que Giuliani faisait pas seulement la lutte pour nettoyer les tunnels, il faisait aussi une lutte pour désarmer les gangs. Donc c'était très, très chaud et en même temps il y avait des défenseurs des droits de l'homme qui défendaient les gens qui étaient en dessous.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'avec ce maire à la tête de New York, cette ville était devenue en réalité un modèle, je mets des guillemets, mais un modèle international en matière de lutte contre la délinquance. Et finalement c'est ça qui primait, même si en réalité, et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a beaucoup de débats sur la question de savoir quels ont été les effets réels de cette politique. Mais en tout cas, c'est ça que tout le monde voyait. Giuliani nettoie la ville et tant mieux. C'est ça qu'on entendait.
Ça rassurait, mais bien sûr. C'est ça.
Et vous pensez que vraiment il a lutté contre la délinquance?
Oui. Oui. Et là, moi, je pense qu'avant, on se baladait dans certains quartiers de New York et ça, c'est vrai que ça tirait. Il a désarmé la ville quand même. Il n'y a plus d'armurerie dans New York.
C'est plus le cas aujourd'hui. Allez, nouvel extrait, Chantal Asplat.
À notre arrivée, certains habitants du Hell's Kitchen ont fui. D'autres ont accepté notre présence. C'est le cas de José, le rôdeur des tunnels, qui découvre devant nous le territoire d'un autre.
Oh, this is nice.
Beaucoup de gens cachent leurs affaires ici, parce qu'ils ne veulent pas les transporter. Ces trois derniers jours, il y a eu beaucoup de neige. Ils planquent leurs vêtements, mais apparemment, cette personne n'a pas fait un bon boulot. Parce que cet endroit est accessible et quelqu'un comme moi qui se balade dans le coin peut facilement les trouver.
Voilà, cette voix qu'on entend, c'est celle de José, un habitant du Hell's Kitchen, qui est donc l'un des plus dangereux tunnels de la ville, plus dangereux. Chantal Asbat, vous avez pu en faire l'expérience de cette dangerosité.
Oui, justement avec José, parce que José nous avait servi un petit peu de guide pendant trois jours sous Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, c'est peuplé essentiellement de Mexicains ou de Latinos qui sont regroupés en village. Et il faisait très froid à ce moment-là quand on a tourné. Donc, il m'a dit, oh là là, on m'a volé ma doudoune, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent, je travaille pour toi, pour que je m'en rachète une autre. J'ai dit, ok José, bon, je vais donner, je sais plus, $20 ou $25 pour qu'il s'achète une doudoune. Et le lendemain, quand on est descendu, il avait sa doudoune, il monte sa doudoune, et puis mon caméraman part un petit peu devant filmer. Mon assistant était un petit peu sur le côté, moi j'étais avec José, et tout d'un coup il s'arrête et il me met une lame de rasoir, là, sous le cou, et il me dit « donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent ». Alors, je lui ai dit, je sais pas pourquoi, parfois les choses dominent la peur, je lui ai montré mon front et je lui ai dit « c'est pas une banque ». Il était tellement surpris qu'il a reculé et m'a regardé, il a retiré le rasoir. Mais j'ai eu vraiment très très peur. Et après, je ne suis plus descendue sous Hell's Kitchen.
Comment finalement s'organise la répartition de ce territoire? Quelles sont les logiques par lesquelles on investit cet espace? Je voudrais qu'on parle un peu de cette organisation interne.
Alors, ça c'est très compliqué. Parce que par exemple, au début du Riverside, il y a le campus qui est au-dessus, qui n'est pas loin. Donc ceux qui sont dessous vivent en ramassant des livres, en dealant avec les étudiants pour avoir accès aux cantines, etc. Il y a un système comme ça qui marche. Quand on s'avance un peu plus loin, il y a ceux qui montent pour ramasser les canettes de bière. Ça, ce sont des points précis parce qu'ils n'ont pas un énorme parcours à aller faire pour aller les livrer justement à ces camions russes qui les ramassent. Ensuite, quand on continue à descendre le Riverside, il y avait notamment un homme qui vivait sous, il s'était fabriqué comme une espèce de petit studio sous les trappes de train. Parce que là, c'était propre, c'était sec, etc. Donc, c'est très variable.
Il a même repeint son espace. En il blanc. A fait venir l'électricité. Oui. Il a un vieux frigidaire. Il se fait à manger.
Oui, il a un vrai petit appartement dessous. Et il a des conduites d'air. Donc c'est pas
un appartement, ça reste un mini KGB.
Ouais. Et puis par exemple au Bronx, là c'est différent. Il y a un endroit qui s'appelle le terrain des ossements où c'est une grande dalle avec des trous et ces trous communiquent avec les sous-sols et ça c'est ce qui aère un peu dessous et là c'est une religieuse qui s'occupe du terrain des ossements, et elle récupère des vêtements, elle récupère de la nourriture, et elle les alimente.
C'est la fameuse sœur Laurie.
Oui.
Mais est-ce que vous diriez que ces personnes se constituent vraiment en communauté? Est-ce qu'on crée réellement de nouveaux liens les uns avec les autres?
Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine entraide sous terre.
Et puis parce que ça, honnêtement, ça n'apparaît pas dans votre documentaire. On a quand même l'impression, c'est l'impression que j'ai eue moi en voyant le documentaire, que chacun vit dans son coin. Par exemple, lorsqu'on se déplace dans ces tunnels, on croise parfois des lieux où des gens ont installé des lits, des tables, des lieux de vie.
Oui.
Mais en réalité, ce sont des lieux de vie qui ont été désertés. Désertés, a priori, parce que en entendant des gens arriver, les gens s'en vont. On a quand même le sentiment, on voit aussi à un autre moment dans le documentaire, une femme qui explique avoir mis un piège pour pouvoir justement entendre lorsque les gens arrivent dans son petit espace qu'elle s'est créé. On a l'impression que les gens vivent vraiment les uns à côté des autres, mais pas les uns avec les autres. C'est l'impression que j'ai eue en regardant votre documentaire.
C'est juste, parce que c'est la peur qui domine. Mais quand même, par exemple, si Brooklyn, qui vit sous terre depuis longtemps, a un gros problème, elle sait qu'au début du tunnel, il y a John et qu'elle peut toujours s'adresser à lui pour l'aider. Il y a quand même... Ils ont peur d'entendre des gens de l'extérieur. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des poseurs de bombes éventuelles. Parce qu'il y a, il y a une communication quand même qui se fait tout au long. Surtout sur le Riverside Park.
Mais il y a des amitiés qui peuvent se nouer.
Oui, absolument. Des histoires d'amour aussi.
Des histoires d'amour?
Oui. Brooklyn a rencontré un homme avec qui elle vit sous les tunnels.
Après le documentaire?
Non, avant.
Parce qu'au moment...
Avant.
Au moment du documentaire, elle est seule.
Elle est seule, parce qu'il se cache. Il n'a pas voulu apparaître. Ils ont très peur aussi. Hein. Il y a quand même... quand on vit, quand on passe un long moment sous terre, moi j'ai tourné pendant 3 mois sous terre, quand on y descend tous les jours, on a un étrange sentiment de paix. Le danger, c'est en haut. Sauf s'il y a des intrus.
Et quelle est dans cet environnement la place de la drogue? Est-ce que son usage est répandu dans les souterrains?
Ah ouais, ouais, bah parce qu'ils ont, c'est très dur quand il fait moins 12, moins 14 à la surface, ils sont vraiment pris comme des rats. Et le seul moyen, ils ont pas d'argent pour s'acheter du vin, ça coûte très cher, ou de l'alcool. Le crack est vraiment très très utilisé sous terre.
Mais c'est pas forcément la consommation de drogue qui conduit dans ces tunnels.
Non, non. Ce qui conduit dans les tunnels, c'est tout d'un coup se trouver à la rue, plus avoir d'argent, plus avoir de maison, plus avoir. Il y a des ce qu'on peut appeler des nouveaux pauvres maintenant qui peuplent les tunnels parce que la vie à New York est devenue très très chère.
Et le rapport à Dieu, le rapport à la foi, Chantal Lasbatz, qu'est-ce que vous en avez compris? Est-ce qu'on croit encore? Est-ce qu'on croit encore en Dieu? Est-ce que vous avez croisé des croyants?
Non. Non.
On ne croit même plus en Dieu?
Non. On croit juste peut-être à la survie. C'est tout.
Est-ce que certains, justement, parviennent à aller au-delà de la survie et reprendre une vie, et je mets des guillemets une fois encore, une vie normale?
Non, enfin moi j'en ai pas rencontré. J'ai rencontré un homme qui était très profond sous terre et je lui ai dit maintenant essaye de remonter à la surface, essaye de voir le jour. Il y a combien de temps que t'as pas vu le jour? Il y a 5 ans qu'il n'avait pas vu le jour. Alors il était assez profond, on l'a aidé à monter les paliers, à monter les marches d'escalier. Et quand il y a eu à peine une lueur du jour au moins 2, il m'a dit « je peux plus ». Il a calé, il a arrêté, il est redescendu.
Il a fait demi-tour.
Ouais.
Alors, s'ils ont du mal, évidemment, à sortir, en tout cas pour certains, la lumière du jour, est-ce qu'ils restent malgré tout connectés au monde d'en haut? Et connectés, je pense par exemple à l'actualité. Est-ce que les questions politiques restent encore des sujets pour eux? Ou est-ce qu'ils en sont totalement
isolés? Là encore, ça dépend des endroits où ils sont. Par exemple, John, qui est au tout début du Riverside, qui va dans l'université, qui lit, qui ramasse des bouquins, lui, oui, par exemple. Parce que il remonte souvent et il est dans l'endroit où il est sous le tunnel, il y a de la lumière. Donc il a aucun problème à se connecter. Donc il est politique.
Mais ils le font, c'est-à-dire qu'ils ont encore une forme d'engagement politique. Non, parce que je dis ça, il y a un moment dans votre documentaire où on voit un homme qui est en train de lire un journal. C'est un moment d'élection.
C'est John.
Et vous lui demandez, alors vous êtes plutôt Hillary Clinton ou plutôt Barack Obama? Et lui, c'est pas trop.
Ouais, mais quand même, il lit le journal.
Il s'y intéresse.
Il s'intéresse.
Est-ce qu'aux États-Unis, Chantal Lasbat, il y a d'autres villes dans lesquelles on a des sans-abri qui, comme ça, se réfugient dans les sous-sols, dans les tunnels?
Las Vegas. Las Vegas, il y a des. Ils sont dans des anciens égouts asséchés. Ouais, là, il y a du monde. Mais pas autant qu'à New York. Et c'est pas du tout la même organisation. C'est pas la même vie.
C'est-à-dire
qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés au jeu, soit qui mendient à la sortie des casinos, soit qui ont tout perdu, soit... C'est plus une population dans ce style de vie.
Il y en a évidemment dans d'autres villes du monde, à Naples, il y en a à Oulan-Bator, où là on a aussi des milliers de Mongols en l'occurrence qui se réfugient dans les bas-fonds de la ville, et là peut-être...
Ouais, il y en a aussi...
Peut-être pour se mettre aussi à l'abri du froid.
Ouais, en Russie aussi, dans certaines villes.
Vous aviez envisagé à un moment de faire d'autres documentaires sur ces peuples de l'ombre, sur ces peuples taupes?
Oui, au tout début, quand j'ai parlé avec Steve, qui a été notre guide sur New York, parce que lui, il est spécialisé, il adore les tunnels, il parcourt les tunnels de la planète entière, il fait des plans des tunnels. Et à un moment, on avait parlé, on avait dit, peut-être on pourrait faire une série. Puis non.
Pourquoi?
Parce que rien n'était, pour moi, aussi extraordinaire, aussi fort que New York. Aussi organisé.
Ça aurait été de toute façon moins intéressant, moins intense.
Oui.
Dans les entrailles de la Terre, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde, le souterrain, une autre société de New York à Copiapó, ces sociétés souterraines, c'est notre sujet, on en parle avec Chantal Lasbat, qui est donc réalisatrice de ce documentaire dans les entrailles de New York. On va quitter un instant le monde réel pour aller du côté de la fiction, où là aussi, cette question du souterrain et de ses représentations se pose de façon très prégnante.
France Culture. Culture Monde, Florian Delorme.
Mon nom, c'est pas Oswald, c'est pas Gouin. Je ne suis pas un humain, moi. Je suis seulement un animal. Un animal à sang-froid. À fond, la climate. Où sont mes listes? Qu'on me donne les noms.
Ah, l'heure a sonné. Ce sont les noms des fils aînés des familles du Gotham. Comme moi, je le fus jadis. Et comme moi... Un horrible destin les attend désormais. Ce soir, quand leurs parents s'amuseront, eux, ils feront de beaux rêves dans de jolis petits Moïse, sous des couettes bien moelleuses. Et nous, nous les kidnapperons, nous les emporterons dans les égouts et les enfouirons dans une tombe noire, profonde et boueuse.
Extrait de ce film Batman, le défi de Tim Burton, sorti en 1992. On est là dans le repère du pingouin sous la ville de Gotham. Et c'est justement depuis ce repère souterrain que ce pingouin, joué par Christopher Walken, eh bien, prépare ses actions malfaisantes. On va retrouver un nouvel invité, Bastien Daret. Bonjour. Bastien Daret, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes doctorant à l'Université Paris 3 en études cinématographiques, scénariste, un spécialiste des blockbusters états-uniens. Vous avez écrit récemment un article dans la revue Urbanité intitulé « Sous nous, le refuge ». Vous y abordez la place des urbanités souterraines dans le cinéma américain pour mieux mesurer finalement les porosités de cette frontière entre ce qu'il y a finalement au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Et vous dites à propos de ce film que finalement la plus grande aspiration de ce criminel qu'on entendait, de ce fameux pingouin, c'est d'être vu. Finalement, depuis le sous-sol de Gotham, ce qu'il veut, c'est faire partie du monde qu'on voit, celui de la surface, Bastien Daret.
Effectivement. effectivement, en fait, l'objectif du pingouin, c'est d'apparaître, d'être vu. Il y a d'ailleurs une scène très très belle où il monte depuis les égouts et se révèle dans la ville de Gotham City sous les yeux de tous les habitants. Et son objectif, tous les plans qu'il formante sous terre, ont un seul objet, une seule visée, c'est d'être vu, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Tim Burton, lorsqu'il fait Batman le défi, on est en 91, je crois, s'inspire, comme d'habitude dans tout son cinéma, d'une imagerie expressionniste et d'élan baroque, etc. Et des années plus tard, quand Christopher Nolan, lui, fait son Batman Dark Knight avec Christian Bale et Heath Ledger, le rapport au souterrain a un peu changé, puisque c'est beaucoup plus pragmatique, on se cache pour ne pas être repéré.
Mais ce qui est intéressant là-dedans, Bastien Darès, c'est que ici l'enjeu spatial cache un autre enjeu, qui est en fait l'enjeu identitaire. Celui-là, vous écrivez, je vous cite, « Rejoindre la ville, c'est quitter l'ombre pour pouvoir clamer son appartenance au monde d'en haut, à la communauté des gens normaux. » Il est question d'identité, là.
Effectivement, et il y a une séquence, je regardais le documentaire dans les entrailles de New York, et il y a une séquence qui m'a frappé. C'est la séquence où Louis, un des personnages que suit Chantal Lesbat, doit remonter, il est suivi par l'équipe, et doit remonter à la surface, et à la dernière seconde, il n'ose pas, parce que remonter, c'est être vu. Il y a quelque chose ici qui m'a beaucoup frappé, et qui m'a fait penser par ailleurs à une nouvelle de Lovecraft, Je suis d'ailleurs, où on suit un narrateur à la première personne qui vit dans des souterrains et qui veut absolument monter. Et en fait, il monte dans des galeries souterraines et lorsqu'il arrive à la surface, il tombe sur un miroir et en fait se voit, est vu et se voit et découvre qu'en fait il est une créature, ce qu'il ignorait puisqu'il n'avait pas accès à ça. Donc il y a ici une révélation de son identité.
Et c'est vrai, ça, Chantal Lesbat. Effectivement, remonter, c'est être vu, c'est appartenir au monde et c'est affirmer son identité aussi. Et c'est ce que précisément refuse de faire cet homme.
Ils veulent surtout pas. Lui, celui qui a essayé de monter, il voulait vraiment pas. Mais les trois quarts ne veulent pas qu'on les voit. Ils restent. C'est pour ça, moi, je suis descendue jusqu'à -8. Mais il y a 12 niveaux. Et ceux qui sont dans les niveaux tout à fait en bas remontent pas. Remontent pas depuis une éternité. Ils veulent pas qu'on les voit.
Bastien Darès, il y a beaucoup d'autres films américains et notamment des films récents dans lesquels on se cache sous terre, les buts étant évidemment de pas se faire repérer. Vous évoquez plusieurs cas, il y a évidemment le 23e opus de la série des James Bond, Skyfall, réalisé par Sam Mendes en 2012, où là le méchant s'échappe en passant par les tunnels du métro. On a aussi Dark Knight Rises ou alors Prometheus, ce sont des exemples que vous prenez dans votre article. Et à chaque fois, il est question d'échapper à ce que vous appelez le point de vue zénital, celui qui vient d'en haut et qui s'est considérablement aiguisé via les nouvelles technologies, les satellites, les GPS, tous ces systèmes de géolocalisation. Qu'est-ce que finalement ce point de vue zénital extra-humain a changé selon vous dans la manière de raconter, de narrer les histoires au cinéma et dans la place aussi accordée au monde souterrain et à son rapport avec la ville de surface, Bastien Darès?
En premier lieu, quand le souterrain apparaît comme un refuge, pour commencer, au début, c'est le bunker, c'est l'abri pour échapper aux bombes pendant la guerre, aux bombes qui tombent. Et effectivement, à une espèce de point de vue zénital, ici, complètement inhumain, objectif, celui de la bombe qui tombe et qui fait tout sauter sur son passage. Ce qui est intéressant avec ce nouveau point de vue zénital extrêmement, celui des satellites, des GPS, des caméras de surveillance, etc., c'est qu'on lui échappe plus difficilement. Et effectivement, pour éviter d'être vu, mais aujourd'hui pour éviter d'être localisé dans un monde où nous sommes à la fois un corps physique, mais aussi une identité numérique, un ensemble de coordonnées et de données constamment localisables, aller sous terre devient un enjeu important. Alors les thrillers américains s'en sont bien entendu emparés de cette question. Mais Hollywood a toujours eu un goût pour les récits qui vont mettre en scène la technologie contemporaine et les nouvelles technologies et les réinvestir avec leurs propres nouvelles technologies, en l'occurrence les images de synthèse. Si bien que effectivement ça a vivifié le thriller. On peut plus aujourd'hui écrire à l'heure de 24 heures chrono ou à l'heure des films de Tony Scott. On peut plus écrire un thriller comme on l'écrivait avant. Effectivement, le gouvernement a accès ou la police a accès à plus d'informations sur nous et il faut essayer de se réfugier toujours plus profond dans un monde plus analogique, mine de rien, pour y échapper.
Cette obsession de la localisation, Chantal Lasbat, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans votre documentaire. Et je pense notamment à cet homme qui est un ancien membre d'un gang, qui est là aussi pour se cacher. Il est recherché par la police et il est aussi là pour éviter justement qu'on le localise.
Ah ben, les téléphones portables passent pas sous terre. Mmh. Hein. Ils peuvent envoyer toutes les sondes qu'ils veulent. Quand on est très profond, ça passe pas. Mmh. On peut vraiment se cacher sous terre sans être repéré. À l'heure actuelle, rien, vraiment très profond, même pas très profond, hein, moins 5, moins 6. Nous, on se disait, si on a un pépin, on peut pas téléphoner à la prod pour qu'il nous envoie quelqu'un, ça passait pas.
Allez, on va écouter un nouvel extrait, on va continuer sur ce chemin du cinéma. On va parler de Matrix, dans le premier volet de la série Matrix, réalisé par les Wachowski. On découvre l'histoire de ce hacker, Neo, qui vit en fait dans un monde virtuel, la matrice, notre monde ne serait qu'un monde virtuel contrôlé par les machines, et le vrai monde, lui, a été dévasté par une guerre où les machines, précisément, ont pris le dessus sur les humains. C'est donc tout logiquement que la rébellion s'organise dans les entrailles de la Terre, bien sûr.
Presque personne ne descend ici, sauf bien sûr s'il y a un problème. Eh oui, les gens sont comme ça, on ne cherche pas à savoir comment ça marche tant que ça marche. J'aime bien me souvenir que cette cité survit uniquement grâce à toutes ces machines. Ces machines-là nous permettent de vivre pendant que d'autres machines viennent nous tuer. Si nous le voulions, nous pourrions toutes les mettre en pièces. Mais si nous le faisions, il faudrait nous demander ce qui arriverait à notre éclairage, notre chauffage, notre air. Il y a tellement de choses en ce monde auxquelles je ne comprends rien. Vous voyez cette machine? Elle a un rapport avec le recyclage de nos réserves d'eau. Je n'ai absolument aucune idée de son fonctionnement, mais je comprends pour quelles raisons il faut qu'elle fonctionne. Je ne sais absolument pas pour quelles raisons vous avez le pouvoir de faire certaines choses. Mais je suis persuadé qu'il y en a une aussi. Mon seul espoir, c'est qu'on découvre cette raison avant qu'il ne soit trop tard.
Voilà, extrait de ce deuxième volet de la série Matrix, Matrix Reloaded, réalisé donc par les Wachowski, où on découvre cette ville souterraine de Sion, bastion d'arrêt. Vous dites que tout l'enjeu des Wachowski, quand ils pensent la suite du premier volet, c'est d'interroger justement cette frontière entre cet espace virtuel du haut et celui du bas. C'est vrai que même dans la ville de Sion, supposément réelle, Neo peut utiliser ses pouvoirs, on l'entendait à l'instant, ce qui rend évidemment la frontière extrêmement poreuse, et ce qui par ailleurs a fait l'objet de beaucoup de commentaires de fans qui ont cherché à expliquer cette étrangeté. Mais ça, c'est un autre sujet, Bastien Darrêt. Sur cette frontière, sur cette porosité entre ces deux mondes.
Dès le premier, en fait, ce réfugié sous terre ne suffit pas exactement, puisque les robots, les machines, sont capables d'envoyer des sentinelles, qui sont des espèces de caméras créatures qui descendent dans les tunnels et viennent les chercher. Et ils arrivent à y échapper en dissimulant leur trace. À partir du 2 et du 3, les Wachowski ont cette envie de complexifier encore cet univers et de complexifier la question des frontières. Ils imaginent que, alors que dans le premier, les choses étaient assez posées, le monde réel contre le monde numérique, que les choses se contaminent. Et c'est ça qui va les travailler, et qui vont travailler de manière subversive, en inversant des valeurs attendues déjà, parce que, en fait, cet espace refuge, c'est effectivement comme un espace de communauté, pour rebondir sur des choses qui avaient été dites plus tôt. Et c'est un espace, où on va créer ces valeurs, où on va défier des catégories sexuelles, génériques, etc. Il y a une très très longue et très belle scène de rave party dans
Absolument. Absolument. Alors, dans Matrix, Bastien Darrêt, le monde de la surface, il est celui du virtuel, de la matrice, alors que le monde sous terre, c'est celui du réel, celui où l'humanité recouvre sa liberté. Donc ici, on voit bien que l'identité humaine se joue dans l'espace souterrain, contrairement précisément à ce qui se passait dans Batman, dont on parlait juste avant. Dans Matrix, chaque personnage réel a son double virtuel, et la ville de Sion recouvre sa liberté et échappe à la domination des machines à partir du moment où les deux mondes, le monde réel et la matrice, se retrouvent fusionnent l'un et l'autre. Finalement, ces questions, évidemment, elles nous touchent beaucoup aujourd'hui avec cette utilisation intensive d'avatars numériques sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre nous sont des utilisateurs friands, voire carrément aliénés de ces fameux réseaux sur lesquels s'étalent nos vies et où se construisent de nouveaux liens sociaux. Ça correspond pas toujours d'ailleurs à la réalité de nos rapports sociaux dans le monde physique. Et finalement, peut-être que le message d'Evachowski aussi, c'est celui de cette nécessité d'essayer de faire correspondre les deux. Il y a quelque chose de cette quête d'une identité, disons, apaisée, qui passe par une correspondance équilibrée entre monde physique et monde virtuel. Il y a aussi ce message. Bastien Darré.
Bien sûr, et c'est ça qui a, je pense, ennuyé une partie de la communauté, de fans du film qui ont été déboussolés par la fin, où effectivement les Wachowski imaginent une fusion entre l'homme et la machine. Et c'est vrai que les Wachowski s'inscrivent dans la tradition de Donna Haraway, qui pense la question du cyborg et de l'homme augmenté par les technologies comme la possibilité, si on le décide, d'un accroissement de l'individu, d'un dépassement des frontières entre l'animal, le mécanique, l'humain, et la possibilité de créer un monde nouveau, éloigné des valeurs masculinistes et virilistes. Et ça, c'est exactement ce qui intéresse les Wachowski. Et leur solution, la solution qu'ils proposent quand Keanu Reeves incarne Neo, fusionne avec la Matrice, va effectivement dans ce sens de la création d'un monde qui va dépasser les frontières et qui va en effet accepter, embrasser que notre identité, notre corps, notre identité dans le monde réel, le corps et notre identité numérique sont poreuses, en fait, sont plus difficiles à discerner qu'elles ne l'étaient auparavant.
C'est aussi, évidemment, il faut peut-être rappeler que les Wachowski sont transgenres, sont devenus des filles. Donc là, il est aussi évidemment question, dans le réel, dans leur propre vie, de cette porosité, de ces frontières de genre, de ces frontières identitaires. Merci beaucoup, Bastien Darré, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai que vous êtes doctorant à l'Université Paris 3 en études cinématographiques, un scénariste et donc un spécialiste de ces blockbusters états-uniens dont on a parlé. En tout cas, certains vont quitter la matrice, revenir dans le monde réel, prendre la direction de l'Amérique latine. On est en août 2010 dans une mine de San José, au nord de Copiapo, au Chili. Une trentaine de mineurs se retrouvent pris au piège à plus de 600 mètres sous terre suite à un effondrement de la roche, alors que les autorités ont très peu d'espoir de les retrouver vivants. Eh bien, elles engagent pourtant des recherches, notamment sous la pression évidemment des familles des disparus qui sont réunies autour de la mine. On réalise des forages en direction de la galerie dans laquelle ils sont censés se trouver. Et finalement...
Cette lettre est sortie aujourd'hui du cœur de la montagne et elle dit « Nous allons bien, chacun des 33 d'entre nous, nous sommes à l'abri. » Comment allez-vous ?
On va bien, monsieur le ministre. On attend d'être secouru.
Le pays tout entier est derrière vous et suit votre sauvetage. Dans chaque village, on a célébré le premier contact établi avec vous hier.
J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Je suis fier de mon pays. Et je remercie tout le monde, les secouristes et tous ceux qui ont œuvré pour nous.
Vive le Chili !
Voilà, après un forage de 688 mètres, le contact est finalement rétabli avec les mineurs qui s'étaient réfugiés dans un refuge de sécurité. Il faudra 2 mois et demi pour extraire ces 33 mineurs qui, un à un, sortiront finalement des entrailles de la terre sous le regard des camarades et journalistes venus couvrir l'événement. Tout le pays suit leur retour à la surface. Le président lui-même a fait le déplacement, Sébastien Piñera. On va accueillir tout de suite Nicolas Richard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, fondateur du Centre d'Histoire et d'Anthropologie des Amériques Latines, un spécialiste du Chili et notamment des questions minières. Le jour de l'accident, vous étiez justement de passage à Copiapo, dans ce désert de l'Atacama, à près de 800 km de la capitale Santiago. Copiapo, c'est une petite ville, un peu plus de 100 000 habitants. Toute son économie est tournée vers ce secteur minier. Quel souvenir vous avez justement de cet événement? Quelle était l'atmosphère à ce moment-là, le soir du drame?
Oui, bah exactement. J'étais sur la route. Je me suis arrêté ce soir à Copiapo. J'étais à la maison d'un mineur, Paulino, qui est déjà décédé d'ailleurs. Et Copiapo est une ville minière. C'est une des villes de tradition minière du Chili, enfin très ancienne. Et l'émotion était extrême. C'est impressionnant aussi comment les codes c'est-à-dire les lumières éteintes, les bougies, les radios, tout le monde en situation d'écoute, de préoccupation, la solidarité de toute la ville qui était tout d'un coup saisie cet après-midi par l'effondrement de la mine. Mmh. Et donc tout de suite la pression des familles, mais pas seulement des familles, de tous les mineurs de la région, c'est des gens extrêmement solidaires. C'est des gens extrêmement concernés par le sort des autres.
Oui, et justement cette solidarité, parce qu'effectivement pendant de longues semaines, ils vont vivre dans des conditions extrêmement difficiles, une chaleur intense, humide, sans la lumière du jour, et surtout bien sûr avec très peu de nourriture. Et l'un des points sur lesquels ils avaient insisté pour expliquer justement ce qui leur avait permis finalement de tenir et de garder espoir, c'est cette fameuse solidarité dont ils ont fait preuve les uns envers les autres, même s'il y a évidemment eu des moments un peu difficiles, il y a eu des moments de tension dans le groupe, ils sont quand même évidemment appuyer très fortement sur les liens qu'ils avaient tissés les uns et les autres en creusant la même roche. Je voudrais qu'on parle de représentation, Nicolas Richard, parce qu'au Chili, il y a tout un imaginaire lié au sous-sol, lié aux mines. C'est un endroit qui est habité par des esprits, avec des rituels, des croyances autour des extractions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement ces croyances, ces représentations qui entourent ce sous-sol et ces mines souterraines, Nicolas Richard ?
C'est-à-dire que les Andes, en général, comme zone minière extrêmement riche, depuis des millénaires, développé des cultures minières très hétérogènes. Enfin, il y a beaucoup de cultures minières qui se développent. Ces cultures minières ont à gérer, en fait, cette dialectique entre le danger que signifient les mines, quoi, le danger que signifie l'entrée dans le sous-sol, le travail de mineur, et la richesse soudaine possible de ce travail. Cette richesse des minéraux, cette richesse soudaine possible, elle est complètement déstabilisante pour l'ordre social. Donc il est toujours question de d'arrangement avec le diable ou de forces qui sont déstabilisatrices. Donc il y a ce sous-sol en même temps comme richesse et en même temps comme danger.
D'accord, c'est-à-dire que si je vous entends bien, Nicolas Richard, dans la mesure où la mine finalement représente, en tout cas potentiellement, des sources de richesse, même si en réalité c'est plutôt la pauvreté qui prédomine, mais on va chercher dans les entrailles de la terre la ressource par laquelle on va devenir riche, on va devenir puissant, et donc bouleverser cet ordre social établi. Et donc il faut finalement compenser d'une certaine manière avec ces fameux rituels. Je comprends les choses comme il faut, Nicolas Richard.
Il faut pas fixer entièrement le regard sur les très grandes mines. Voyez-vous, il y a plein de petites mines, de petites exploitations où des gens effectivement, circulent et trouvent soudainement, vous voyez, des richesses. Ça se passe. Donc ces richesses sont entièrement déstabilisatrices. Elles sont suivies, de changements familiaux, sociaux, économiques, politiques, etc. Il faut comprendre aussi que les montagnes et les mines, c'est-à-dire l'existence des richesses dans les mines, sont un fait moral. Vous voyez, une montagne peut ne pas avoir de minerais et puis tout d'un coup en avoir parce que il s'est passé quelque chose, parce que le diable est venu dans la montagne, parce que certaines rituels ont été accomplis, et donc l'existence ou pas des minéraux dans les montagnes, et les montagnes elles-mêmes qui ont des noms, qui sont singulières, qui ont des parentés les unes avec les autres, etc. Donc la montagne est un fait moral, et l'exploitation minière dans la montagne, aller dans la mine, tous ces corpus culturels ont à gérer ces dimensions morales, on va dire, de la richesse, des minéraux.
Et Nicolas Richard, qu'est-ce qui a changé finalement depuis ce drame ? Est-ce que les conditions de travail des mineurs a changé ? Est-ce qu'ils sont moins exposés aux risques ? Qu'est-ce qui a évolué depuis dans le secteur minier ?
Justement, c'est très intéressant. Cet accident, il est liminal, je veux dire. Si une mine qui est ancienne, la mine Saint-José qui s'est effondrée, c'est une mine qui a 130 ans, c'est une mine qui était une mine d'argent, qui a été exploitée au 19e siècle, qui a eu des accidents dans le chemin, qui a fermé, qui a rouvert. Donc c'est une ancienne mine qui était en train de grandir et qui s'effondre donc. C'est un type de et qui a une dimension, cette dimension liminale. Les nouvelles mines, les nouvelles Les nouvelles mines en Amérique du Sud, au Chili, sont en général des mines à ciel ouvert. Des nouvelles technologies minières, le 80% des mines actuelles sont des mines à ciel ouvert. Donc la dimension souterraine, justement, disparaît de l'expérience du mineur.
Et donc c'est toute une culture qui est liée à tout ça qui disparaît aussi.
Comme espace de transmission de culture disparaît aussi. Et comme spécificité de lieu de travail et de culture disparaît aussi. Donc les nouvelles mines, justement, sont des nouvelles... Enfin, en 1980, au Chili, 80% des mines étaient souterraines. Aujourd'hui, 80% des mines sont à ciel ouvert. Donc il y a justement un basculement complet de cette dimension du souterrain comme espace de travail, de solidarité, de transmission de culture.
Et pourtant, Nicolas Richard, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvements sociaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revendications dans ces fameuses mines à ciel ouvert. Il y a par exemple depuis quelques semaines, dans la plus grande mine à ciel ouvert justement du pays, la mine d'Escondida, qui est dans le désert de l'Atacama au nord du Chili, on a des grèves régulières.
Effectivement, je pointe seulement la disparition du souterrain comme espace de travail. Au moment de l'effondrement de la mine, il y a eu donc une récupération politique de tout ceci. Rien n'a été fait depuis. Il n'y a pas eu de changement dans la loi. On avait promis, en ce moment-là, zéro accident pour le futur. Rien n'a été fait, en fait. Rien n'a été fait au niveau juridique pour changer les conditions de travail des gens.
Merci beaucoup, Nicolas Richard. Rien n'a été fait aussi parce que, bien sûr, cette extraction minière, elle est centrale dans l'économie du Chili. L'extraction du cuivre, évidemment, c'est un des piliers de l'économie chilienne. Merci infiniment, Nicolas Richard, d'avoir été avec nous. Je rappellerai que vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et puis fondateur donc de ce Centre d'histoire et d'anthropologie des Amériques latines. Un grand merci à vous, Chantal Lasbatz.
Merci.
De nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes réalisatrice, que vous avez notamment tourné ce documentaire Dans les entrailles de New York que j'ai redécouvert. Je l'avais vu au moment où il était sorti, je l'ai redécouvert. Il est absolument passionnant, terrifiant évidemment, mais passionnant. Merci beaucoup de nous avoir.
On peut le voir sur YouTube.
YouTube ou sur, on recherche dans son petit moteur de recherche, en culture vidéo et on le retrouve assez facilement.
Il existe
j'en ai fait
encore.
L'expérience. Merci beaucoup.
I can't give you all my dreams.
11h passées de presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver le monde, non pas souterrain, mais celui des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle de la Grande-Bretagne, du parti travailliste britannique, autrefois l'un des plus puissants partis de la gauche européenne qui connaît une crise existentielle, mais les autres partis de gauche européenne ne se portent pas très bien non plus.
En effet, le déclin de la social-démocratie semble général et n'épargne plus aucun des partis qui s'en réclament en Europe. Pour certains, ce courant politique axé sur l'amélioration constante des systèmes de protection sociale et sur la redistribution des revenus était menacé depuis la crise de 1974. C'est la thèse que soutient par exemple Sherry Berman, professeur de sciences politiques, dans un article mis en ligne sur le site de la London School of Economics. Durant les 30 glorieuses, écrit-elle, les partis de la gauche gestionnaire avaient su accompagner les évolutions du capitalisme, atténuer ses effets les plus déstabilisants. Mais à partir du milieu des années 70, ces partis sociaux-démocrates n'auraient plus proposé, je cite, que des mesures d'arrière-garde, tout juste bonnes à retarder des évolutions sur lesquelles ils avaient renoncé à garder prise. La croissance s'essoufflant, il y aurait eu de moins en moins à redistribuer et c'est ainsi, poursuit-elle, qu'a pu se développer un capitalisme sans entrave, lequel a suscité la création de bulles financières et leur explosion a provoqué, comme on sait, la crise de 2008, qui a profité à l'extrême droite. Version contredite par d'autres analystes sur le constat suivant. Au tournant du millénaire, en 99-2000, souvenons-nous, la gauche était au pouvoir, seule ou en coalition, dans presque tous les pays d'Europe. C'est ce qu'écrit notamment Tony Barber dans le Financial Times. Lionel Jospin en France, Gerhard Schröder en Allemagne, Tony Blair en Grande-Bretagne, Giuliano Amato en Italie, pour ne citer que les principaux pays d'Europe occidentale, témoignaient de la faveur des sociaux-démocrates auprès de l'électorat. La Suède, la Grèce, l'Autriche, le Portugal étaient également gouvernés par la gauche.
C'est donc plus récemment que quelque chose s'est détraqué. Qu'est-ce qu'on peut mettre en cause, Brice ?
Eh bien là-dessus, les avis divergent. Pour certains, la vocation redistributrice des partis de gauche a été contrariée par le ralentissement des gains de productivité et par les contraintes budgétaires imposées par l'Union européenne. Les partis sociaux-démocrates se sont illustrés parmi les plus solides soutiens d'une construction européenne qu'ils s'étaient engagés à rendre plus sociale. Or, l'UE est perçue par une partie de leur électorat comme le cheval de Troie de la mondialisation et non comme un système de protection collectif. En outre, ces mêmes électeurs, frustrés de voir renflouer les banques par les États alors que stagnaient les revenus des ménages, se seraient vengés sur les partis de gauche. On met également en cause les politiques de troisième voie, la ligne Blair-Schröder, trop favorable au marché et à la libéralisation des échanges. Une politique pourtant calme, mais mal équipée pour faire face aux crises telles que celle de 2008, selon Tony Barber. À l'appui de cette thèse, on note que dans plusieurs pays, les partis de gauche classiques ont été remplacés par des mouvements plus radicaux. Cas de l'Espagne, où Podemos s'est substitué au PSOE, et de la Grèce, où Syriza a chassé le PASOK. Mais cette règle est loin d'être confirmée dans toute l'Europe. Dans certains pays, la gauche de gouvernement est tout simplement en voie de disparition. Elle n'a pas été remplacée par une gauche nouvelle et plus radicale, mais par une droite populiste. Et c'est le cas en Pologne, où il n'y a plus aucun représentant de la gauche à la diète. En réalité, l'électorat de gauche a éclaté, poursuit Tony Barber, une partie composée de libéraux aisés et cosmopolites qui apprécient l'intégration européenne et bénéficient de son ouverture, pousse à des réformes sociétales favorables à l'épanouissement individuel. Mais cela contribue à éloigner du centre-gauche les précaires aux revenus faibles dont l'agenda favorise au contraire les valeurs culturelles conservatrices et qui se sentent menacées par l'UE et par la mondialisation. Conserver ces deux électorats dont les intérêts et l'idéologie divergent apparaît irréaliste. C'est sur la question de l'immigration que se cristallise leur opposition. Et on observe à ce sujet des évolutions troublantes. Ainsi, à l'approche des élections en Allemagne, la ligne du Parti social-démocrate semble bouger très vite. Le président du groupe parlementaire SPD au Bundestag, Thomas Oppermann, a publié récemment un éditorial dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui marque un tournant. Il réclame en effet une protection renforcée des frontières dans l'Europe et le renvoi en Afrique du Nord des immigrants économiques illégaux en collaboration avec les pays du Maghreb. Afin de lutter contre les gangs qui se livrent au trafic d'êtres humains, écrit-il, nous devons saper la source de leur business en renvoyant les réfugiés sauvés en Méditerranée vers l'Afrique du Nord et en pourvoyant là-bas à leurs besoins. Le SPD prévoit en effet dans cet esprit de porter le montant de l'aide au développement de l'Allemagne de 0,5 à 0,7% du PIB. J'ai relevé un article très intéressant dans la revue américaine Foreign Affairs dans lequel Michael Bruning conseille aux partis sociaux-démocrates européens de méditer sur le destin du parti travailliste israélien. Voilà un parti qui a été au pouvoir sans interruption depuis la création de l'État en 48 jusqu'en 77. La victoire d'Ehud Barak en 99, toujours 99, vous avez remarqué, semblait marquer le grand retour de la gauche au pouvoir en Israël, il n'en a rien été. Pourquoi ? Eh bien parce que les dirigeants travaillistes récents ont fait campagne sur les thèmes économiques et sociaux. Chômage, coût de la vie. Mais c'est l'insécurité qui préoccupe d'abord les Israéliens. Et là-dessus, la droite leur semble plus rassurante. En Europe aussi, relève Bruning, l'immigration et le terrorisme apparaissent dans les sondages en tête des préoccupations. 48% pour la première, 39% pour la seconde. La gauche européenne devrait y réfléchir.
Merci beaucoup Brice Couturier. On se retrouve dans une dizaine de jours. Le temps pour moi de prendre quelques vacances, Brice. Ce sera Tiphaine de Rocchini qui vous proposera une semaine la semaine prochaine sur la diplomatie française. Petit bilan perspective. Elle sera même là à partir de demain. Et puis je vous retrouve moi le lundi, pas le suivant, celui encore d'après. À bientôt Brice, dans quelques instants.
Bonnes
sur
vacances.
France Culture. Merci beaucoup.